France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
On l'a découvert, évidemment, vous vous en souvenez, il y a à peine plus de 2 ans, finalement, grâce à un documentaire réjouissant, co-écrit, co-réalisé avec Mélanie Laurent, qui s'appelait Demain, qui nous a tous fait sortir de la salle de ciné le sourire aux lèvres, avec l'idée que nous aussi, on pouvait s'y mettre. Il y a finalement des choses qui sont pas si difficiles à faire. Cyril Dion, qui passe la soirée avec nous, était devenu une sorte de visage d'une écologie positive, de transformation à notre portée. Aujourd'hui, il est là avec une voix off qu'il a posée sur le film Tout est possible, qui sort en salle demain. L'histoire de Californiens, un peu farfelus au départ, mais qui veulent une ferme pleine d'animaux, pleine de plantes, pleine de fruits. Et au fil de 8 ans de travail, de galères parfois, mais sans dévier de leur chemin, ils font une ferme parfaitement éco-responsable et tout contribue à tous les besoins de la ferme, ceux des animaux, ceux des hommes, dans une coexistence, une harmonie qui est respectée. Et encore une fois, l'équilibre, il est difficile à trouver, c'est ça qui est intéressant. Alors est-ce que c'est ça l'écologie telle qu'il la voit lui? Vous lui demanderez. Cyril Dion est aussi l'un des premiers à avoir incité les Gilets jaunes à rejoindre les marches pour le climat. C'était dès le mois de décembre 2018. Il est l'un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Le premier week-end de ses concertations, c'était il y a 2 jours. Et puis l'écologie, depuis le film Demain, elle a d'autres visages. Désormais, il y a celui d'une jeune Suédoise, par exemple, celui de manifestations depuis ces derniers jours, celle d'Extinction Rebellion, par exemple, qui sont partout à l'échelle du monde, partout dans le monde. Les méthodes, les actions, les exemples, les envies, les difficultés de notre passage obligé vers une transformation, si on veut que la planète suive avec nous, toutes ces méthodes-là sont différentes et elles valent qu'on en discute. Allons-y donc, puisqu'il est là jusqu'à 20h, on le remercie au passage. Bonsoir Cyril Dion et merci beaucoup. Bonsoir. On est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Clarisse, c'est vous la première, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne et bonsoir Cyril. J'ai commencé ma question en disant que j'apprécie beaucoup le travail de Cyril, ses livres et ses films. En fait, ma question, c'est je me demandais pourquoi est-ce que Cyril n'est pas avec nous sur les blocages actuels d'Extinction Rebellion, mais il y en a eu d'autres avant. À ma connaissance, je l'ai jamais vu là-bas. Pourtant, je sais qu'il soutient ces mouvements, il l'a déjà dit. Et pourquoi il n'est pas parmi nous? Parce que je pense que sa présence donnerait de la visibilité au mouvement, peut-être de la crédibilité aussi, parce que parfois on est un peu attaqué pour ça, justement, pour attaquer lui. Et je pense aussi que sa présence dissuaderait peut-être la police aussi d'utiliser certaines méthodes. Donc voilà, c'est ma question.
Eh ben, c'est votre question et ce sera sa réponse. Cyril Dion, pourquoi vous n'êtes pas en ce moment avec les jeunes d'Extinction Rebellion?
Là, en ce moment, parce que je suis en train de tourner un film. Aujourd'hui, j'étais au montage toute la journée pour préparer un petit module de 2 minutes qu'on doit pour aller chercher de l'argent pour ce film-là. Et parce que à partir de jeudi, je serai en Angleterre et donc je serai avec les militants d'Extinction Rebellion en Angleterre. Je participerai d'ailleurs samedi à un panel sur les assemblées citoyennes à leur demande. Mais je vais essayer de passer quand même place du Châtelet demain, si j'y arrive.
Allez-y, Célia Guilleret, puisque vous êtes là aussi, spécialiste en environnement de France Inter. Je vous ai pas présenté, pardon.
Bonsoir. Non, pas de problème. Justement, moi, hier après-midi, j'étais avec les militants d'Extinction Rebellion et en fait, ils réclament une assemblée citoyenne pour établir tous ensemble des propositions pour le climat. Qu'est-ce que vous leur répondez finalement? La convention citoyenne, c'est bien une assemblée citoyenne?
Oui, c'est une forme d'assemblée citoyenne. Pour l'instant, un certain nombre de membres d'Extinction Rebellion disent on va faire des assemblées citoyennes nous-mêmes, donc ce qui est très bien de pouvoir en faire une place du Châtelet pour que les gens discutent, échangent, que ça soit une autre façon de faire de la démocratie. Mais j'ai aussi envie de leur dire, là il y a une opportunité qui est quand même assez géniale, c'est-à-dire qu'il y a 150 personnes qui ont été tirées au sort, on peut pas faire plus démocratique que ça, qui viennent de toutes les strates de la société française et qui vont faire des recommandations qui peuvent aller au référendum ou au Parlement, puisque ce week-end encore, puisque j'étais pendant 3 jours à cette fameuse assemblée citoyenne, et le Premier ministre et la ministre de l'écologie l'ont rappelé, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à ce que leurs recommandations aillent sans filtre, c'est-à-dire sans qu'elles soient modifiées, à la fois au Parlement et à la fois au référendum, et c'est l'Assemblée qui pourrait le proposer. Donc il faudrait à ce moment-là que tout le monde soit derrière ces 150 citoyens pour finalement créer ce rapport de force politique et que ces propositions puissent aller au bout.
Et ça se rejoint.
Oui, pour moi, c'est deux façons de créer encore une fois un rapport politique différent et de faire en sorte que des mesures très courageuse soit entérinée par la loi.
Ce qui pose problème, c'est ce qui revient un petit peu dans la question, c'est que la Convention citoyenne émane de l'État. En gros, ça a été, c'est parti des grands débats et c'est comme ça que c'est venu.
Mais donc, en fait,
du coup, cette défiance-là, la défiance commence là, en fait. Donc comment on fait pour convaincre que, effectivement, non, ce sont des citoyens lambda, vous le disiez, tirés au sort, par ailleurs.
Non, mais la difficulté, c'est que, bon, il y a un peu une guerre de communication, mais cette initiative, elle vient pas du tout de l'État. Cette initiative, elle vient d'un groupe qui s'appelle les Gilets Citoyens, qu'on avait constitué pendant les marches climat et le mouvement des Gilets jaunes.
Mais elle sort du grand débat, non, à la base?
Non, c'est au mois de janvier, on a constitué ce collectif et on avait fait une lettre ouverte au président de la République en disant, étant donné ce qui se passe avec les marches climat, avec les Gilets jaunes, et ce que vous êtes en train d'essayer de faire avec le grand débat, nous on pense que si au sortir du grand débat vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire vous dites oui, on a bien entendu toutes vos recommandations, mais en gros on fera ce qu'on veut, ça pourra pas marcher. Donc on appelait à créer une assemblée citoyenne tirée au sort qui puisse délibérer et dont les propositions iraient au référendum. Et ensuite on a rencontré Emmanuel Macron avec Marion Cotillard après un autre épisode de ces mobilisations qui était l'affaire du siècle, ces 2 millions de personnes qui ont signé pour attaquer l'État en justice. Et donc moi j'ai poussé cette idée. Et ensuite on a négocié pendant des mois et des mois pour que ça puisse se faire de façon vraiment indépendante. Et aujourd'hui, ces citoyens sont vraiment totalement indépendants.
Vous avez le droit d'y assister, vous êtes garant, vous avez assisté à ce qui s'est passé le week-end dernier. Qu'est-ce qu'on entend déjà, en fait? Qu'est-ce qui ressort des préoccupations, des dialogues? L'esprit, ça ressemble à quoi, en fait?
Mais on entend un peu la même chose que ce que vous avez dû entendre sur la place du Châtelet ou ce qu'on entend sur votre antenne. C'est ça qui est très frappant, c'est que au bout de 2 jours de travail et de débat, en fait, on entendait déjà, on a un gros problème avec les lobbies, comment est-ce qu'on fait pour que le gouvernement tienne ses promesses, on se sent tout petit par rapport à un enjeu qui est énorme, et donc comment est-ce qu'on s'organise pour essayer de mettre en place des solutions qui sont pas anecdotiques, qui sont pas juste des petits gestes, mais qui vont beaucoup plus loin. Donc et pour nous c'était très émouvant parce que encore une fois c'est des personnes qui sont pas forcément écolos.
Mais comment ça va se passer? On va prendre Georges là-dessus dans un instant. Juste, j'ai une dernière question. Comment ça va se passer? Qui va trancher sur ce qui est bon à prendre et ce qu'on jette des propositions en fait à un moment? Parce que pardon de caricaturer, si quelqu'un arrive en disant voilà désormais il y aura plus une goutte de pétrole, bon ben on sait que c'est un poil plus compliqué. Donc est-ce qu'on décide? Est-ce que quelqu'un va dire ça on jette et ça on garde? Comment ça va se passer?
En fait déjà c'est un processus de délibération. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va avoir une idée comme ça et cette idée va pas aller jusqu'au bout. Tout le travail de délibération, et on l'a vu dans les autres exemples d'assemblées citoyennes tirées au sort, comme ce qui s'est passé en Irlande sur mariage pour tous, droit à l'avortement, au Texas sur la transition énergétique, etc., montre que quand les citoyens tirés au sort sont abreuvés par des experts et qu'ils discutent entre eux et qu'ils sont représentatifs de plein de réalités de la société, en règle générale, les propositions qui émergent sont des propositions qui sont solides et qui tiennent compte, justement, du fait que la réalité est multiple. Et donc ces propositions-là, une fois qu'elles vont sortir, sous forme législative, puisqu'ils ont tout un collège de juristes qui va les accompagner pour les formuler. Et ensuite, ça sera soumis donc sans filtre au Parlement, qui les étudiera comme un projet de loi qui aurait été soumis par le gouvernement, donc qui sera susceptible de les amender, ou au référendum. Et dans ce cas-là, c'est la population française, et on pourra peut-être avoir les deux sur des sujets différents. Là, c'est la population française qui dira oui ou non.
Alors, il y a beaucoup de questions autour de ces conventions citoyennes. On va commencer avec celle de Georges, on enchaînera avec Benoît. Bonsoir Georges.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Oui, je voulais juste rappeler un bon mot de Clémenceau qui disait que pour enterrer un problème, il suffisait de créer une commission. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'a fait le gouvernement en mobilisant 150 personnes qui forcément ne connaissent pas le problème, n'ont pas été formées, j'imagine. Et donc, il va y avoir une espèce de consensus mou pour, à mon avis, ne rien faire.
Et qu'est-ce qui serait mieux, Georges? Parce que à chaque fois, on rétorque, oui, d'accord, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, pardon de vous retourner la question, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas des citoyens tirés au sort, qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que des citoyens tirés au sort? Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Ah ben, je pense que nous sommes face à un problème qui est de l'ordre du scientifique, c'est-à-dire que le GIEC fait d'abord des constats scientifiques, mais aussi donne des solutions. C'est-à-dire qu'il pourrait orienter un petit peu la politique du pays. Mais je pense que ça fait peur aux dirigeants parce qu'on ne pourra pas continuer comme c'est. Il faut absolument changer radicalement la société et personne n'est prêt à le faire.
Cyril Dion va répondre à ça, on écoutera Benoît dans un instant, allez-y.
En fait, on est exactement dans la quadrature du cercle. Mmh. C'est-à-dire que les scientifiques font des propositions, et aujourd'hui les gouvernements, et globalement la plupart des gouvernements dans les démocraties représentatives, ne suivent pas les préconisations des scientifiques. Pourquoi ? Un, parce que ces préconisations demanderaient de remettre en question une bonne partie de notre modèle économique, qui est fondée sur la croissance, qui est fondée sur un capitalisme plutôt à court terme, très financiarisé. Deux, parce que ces propositions sont relativement radicales et que pour certaines d'entre elles, elles ne seraient pas forcément populaires. Donc comme les responsables politiques, leur but c'est quand même en général d'être réélus, le fait d'être réélu va avec le fait d'essayer de plaire un peu à tout le monde et là, plutôt d'aller vers un consensus mou, et donc c'est relativement antinomique avec prendre des propositions radicales. Là, ce qu'on fait, c'est justement essayer de répondre à ça. Des gens qui sont tirés au sort, là, c'est pas une commission, c'est pas une énième commission, ce sont des gens qui sont tirés au sort, qui délibèrent, donc qui n'ont aucun intérêt, qui sont pas influencés par des lobbies, qui ne sont pas non plus dans la perspective de se faire réélire ou de rester au pouvoir, donc qui ont la liberté de faire des propositions qui vont beaucoup plus loin, et que ces propositions, c'est pas pour les mettre dans un placard ou dans un dossier, c'est pour les mettre au référendum ou à l'Assemblée. Donc là, j'invite tous ceux qui pensent que ça sert à rien, plutôt à essayer de pousser pour que ces propositions soient les plus radicales possibles, et ensuite qu'elles aillent vraiment au référendum, et ensuite pousser pour qu'elles soient validées.
On a l'impression qu'on y vous parlez de quadrature du cercle, on est dans cette espèce d'entre-deux où effectivement il y a des choses à trouver, il y a cette commission qui existe, il y a des discussions qui ont lieu, et puis à côté il y a des groupes tels Extinction Rébellion qui eux disent non mais ça va pas assez vite tout ça, donc il vaut mieux frapper un grand coup. Au fond, est-ce que ces deux mondes-là d'abord se rejoignent réellement? Et au fond, est-ce qu'à un moment, je parlais d'écologie positive tout à l'heure quand je vous présentais, est-ce que l'écologie positive a fait son temps en fait, en particulier aux yeux d'un certain nombre de gens en ce moment qui pensent qu'il vaut mieux frapper beaucoup plus fort?
C'est pas qu'elle a fait son temps, c'est que c'est pas... En fait, expliquer que tout va mal, ça ne suffit pas, parce que c'est anxiogène, parce qu'on se sent écrasé par les enjeux. Montrer des solutions, essayer de montrer des initiatives formidables qui donnent de l'enthousiasme, c'est très utile, mais ça ne suffit pas non plus. Aller dans la rue, marcher, essayer de faire un bras de fer comme ça, en essayant d'être le plus nombreux possible, ça ne suffit pas. Faire une pétition en attaquant l'État en justice, on voit que ça ne suffit pas. En fait, ce que je dis, moi, depuis des années, c'est qu'on a besoin de construire des stratégies qui combinent l'ensemble de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de gens qui créent un rapport de force dans la rue, qui créent un rapport de force en faisant de la désobéissance civile, mais aussi de gens qui créent un rapport de force institutionnel pour faire basculer des choses dans le cadre de la loi. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec cette convention citoyenne. Et en même temps, des gens qui brossent un horizon, c'est-à-dire qui montrent où on pourrait aller.
Une autre question sur cette convention, puis on passera à un autre sujet juste après. Benoît, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Benoît.
Alors, merci pour la qualité de la programmation et bravo à Cyril Dion pour son œuvre. Le point que je voulais évoquer a déjà été souligné, c'est de rendre permanente l'Assemblée citoyenne, là, sous la forme de la convention citoyenne qui est actuellement en train d'avoir lieu. Donc, là, ils ont 18 jours pour relever le plus grand défi de l'humanité. La question que j'ai, c'est combien de temps, quelle serait la durée du mandat de cette assemblée citoyenne selon Cyril Dion?
Là, pour l'instant, cette assemblée-là, elle va travailler 6 fois 3 jours, donc 6 week-ends de 3 jours, qui sont séparés à chaque fois par 3 semaines. Et pendant les 3 semaines qui séparent les week-ends, ils continuent à travailler. C'est-à-dire que là, on est en train de leur faire une médiathèque avec des vidéos, des rapports, des articles, des films,
on leur
des
fait, c'est qui? C'est vous, par exemple? C'est les garants qui font la médiathèque?
C'est le comité de pilotage qui est en train de la faire, mais qui est en fait alimenté à la fois par des experts. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il faudrait que les experts les aident, mais par exemple, pendant ce premier week-end, ils ont auditionné Valérie Malson-Delmotte, qui est vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. Donc, ils ont les préconisations du GIEC, ils ont les préconisations du RAC. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils aient un maximum. Donc, moi, en tant que garant, je demande ça. C'est-à-dire, je dis, pour qu'ils fassent bien leur travail, il faut leur donner tous les moyens de se former entre les week-ends. Donc, le comité de pilotage est en train de faire ça. Et eux-mêmes ont demandé déjà des choses. Ils ont demandé à auditionner des gens, ils ont demandé à avoir un certain nombre de rapports. Donc, ça va leur être fourni. Ça va être sur un sujet. Ce sujet de réduire d'au moins 40% les émissions d'ici 2030, ce qu'il faudrait, c'est institutionnaliser cette pratique et qu'ensuite on puisse avoir des conventions citoyennes avec des citoyens tirés au sort qui délibèrent et qui proposent des idées qui vont au référendum ou au Parlement pour plein d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit un mécanisme institutionnel.
Mais est-ce que ça risque pas, au bout d'un moment, toujours de se heurter à la politique? C'est-à-dire si les citoyens disent, par exemple, on piétonnise complètement les centres-villes, s'ils disent les propriétaires sont obligés de rénover leur logement avant de les relouer, ce qui d'ailleurs n'est pas passé à l'Assemblée, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas un risque quand même qu'un homme politique dise non, moi, je vais me présenter aux élections, aux prochaines présidentielles ou aux municipales, et donc finalement, bah, cette proposition-là, je la retiens pas.
Mais là, en fait, on rentre dans les modalités du rapport de force politique tel qu'il existe déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, un certain nombre de députés vont... Enfin, un projet de loi va être présenté, par exemple, par un membre du gouvernement. Un certain nombre de députés vont faire des amendements. Le Sénat, qui n'est pas forcément du même bord politique, va essayer de retoquer ce projet de loi. Enfin, donc là, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut introduire un autre ingrédient. C'est-à-dire que les propositions de loi ne viennent pas uniquement du gouvernement, qu'elles puissent aussi venir des citoyens par des mécanismes de démocratie délibérative et directe. Quand les Gilets jaunes demandaient le référendum d'initiative citoyenne, c'est du même ordre. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de RIC délibératif. C'est-à-dire que d'abord on délibère et ensuite on va au référendum.
Cette question directe sur franceinter.fr de la part d'Hélène qui nous dit parmi les 12 membres choisis dans cette convention citoyenne pour le climat figure Catherine Tissot-Cole qui est cadre dirigeante d'Eramet, une multinationale de l'extraction minière particulièrement polluante et émettrice de gaz à effet de serre, fermez les guillemets.
Je l'attendais.
Ouais, bah là voilà.
Voilà. Bon, déjà vous pouvez aller sur ma page Facebook où j'ai fait une longue réponse à un article de reporter qui soulignait la présence de cette dame. En gros, comment a été constitué le comité de gouvernance de cette convention? Il a été négocié en partenariat avec le gouvernement, qui a demandé à ce que la moitié des membres viennent du Conseil économique, social et environnemental, qui accueille la convention, et l'autre moitié des membres vient des Gilets citoyens. Dans la moitié du CESE, on a cette dame, qui est effectivement issue de l'industrie minière, qui est l'une des plus polluantes du monde, et aussi les plus émettrices, et qui a un impact énorme sur la biosphère, mais qui se trouve être vice-présidente du CESE pour la partie responsabilité sociale et environnementale. Donc le CESE a demandé à ce qu'elle soit là à ce titre. Elle est une sur 15. Or, l'ensemble des membres du comité de gouvernance prennent leurs décisions au consensus. C'est impossible pour une personne sur 15 d'orienter tous les débats. Et nous, on est là pour vérifier. Les citoyens ont été informés de qui était cette femme, quel était son métier, du fait que peut-être que c'était important d'avoir plusieurs points de vue représentés
c'est
dans le comité
de
gouvernance.
Ce que j'allais vous demander, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi c'est pas important, au fond, d'avoir aussi le pollueur à l'intérieur de ce genre de choses? Parce qu'il faut bien entendre ce qu'ils ont à dire et que surtout, eux, entendent ce que les autres ont à dire, non?
Non seulement c'est important d'avoir un point de vue de pollueur, certainement, si on dit qu'on veut avoir une pluralité de vues, mais par ailleurs, c'est la seule représentante du monde de l'entreprise sur 15 et même sur 17, puisque depuis le week-end dernier, deux citoyens ont été tirés au sort pour intégrer ce comité de gouvernance.
Pierre, bonsoir. Pierre, est-ce qu'on vous a perdu? Non, vous êtes là. Allez-y, on vous écoute.
Non, je suis là.
Allez-y.
Oui, donc moi j'intervenais en tant que voix dissonante, surtout par rapport aux manifestations d'agriculteurs aujourd'hui qui, bon, grosso modo disent les pesticides, les intrants sont indispensables pour notre activité agricole. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que lorsque vous allez voir un agriculteur, moi j'habite en milieu rural, j'ai une maison à côté de champs, donc quand vous voyez un agriculteur qui arrive avec ses épandeurs, bon, vous allez le voir, vous dites, qu'est-ce que vous allez mettre, vous pouvez nous donner le nom des produits que vous allez donc épandre, et donc vous êtes traité d'écolo, avec beaucoup de petits noms d'oiseaux, et puis la discussion se termine, laissez-moi travailler hors de mon champ. Donc voilà déjà pour la première partie. Donc moi je ne soutiens pas du tout des gens comme ça, parce que il y a d'autres à côté, j'ai des agriculteurs bio qui font du travail très propre, qui ont parfois des difficultés, mais qui par leur savoir-faire arrivent à surmonter tout ça. Et je voudrais dire aussi aux agriculteurs, il y a une association par exemple, qui fait un travail formidable qui s'appelle Phytovictime. Et elle s'occupe d'agriculteurs qui, eux, sont malades. Ils sont malades par quoi? Par les pesticides qu'ils ont absorbés durant toute leur vie. Et la MSA, ne veut pas les reconnaître en maladie professionnelle. Donc, vous voyez qu'à l'autre bout de la chaîne, ces gens-là sont malades, ils nous rendent malades, et donc, il est grand temps de cesser qu'ils étendent tous ces produits-là.
Merci beaucoup pour votre témoignage et votre question, Pierre. Il y a effectivement des agriculteurs aujourd'hui qui manifestent, qui ont même fait des barrages pour protester contre ce qu'ils appellent l'agribashing. On n'est pas des empoisonneurs, c'est ce qu'il y avait sur leur pancarte. Et il faut réconcilier ces demandes-là à coup d'information, Cyril Dion, non? Ou est-ce qu'il faut dire aux agriculteurs, arrêtez maintenant?
En fait, c'est... Notre société est en train de se rendre compte que notre modèle agricole n'est pas tenable, pour plein de raisons. Il n'est pas tenable parce que beaucoup d'agriculteurs disparaissent parce qu'on les remplace par des machines et des produits, parce qu'un certain nombre d'entre eux se suicident, parce qu'ils sont souvent amenés à vendre leurs produits moins cher que ce que ça leur coûte à produire, parce que ça a un impact sur la biosphère qui est énorme, c'est-à-dire que les insectes disparaissent à cause des pesticides, donc les oiseaux aussi, parce que ça crée énormément de déforestation, parce que ça a un impact énorme sur notre gaz à effet de serre. Maintenant, la solution qui est de se retourner simplement face aux agriculteurs en disant « vous êtes des sales pollueurs, arrêtez de faire ça », ne peut pas marcher, puisque eux, ils sont pieds et poings liés par leur endettement, par le système dans lequel ils ont plongé, parce qu'on les y a encouragés chaudement. Donc, pour moi, c'est une réorientation de la politique. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il faudrait réorienter les subventions agricoles.
C'est-à-dire, est-ce qu'on les aide assez? Si on veut passer au bio aujourd'hui, quand on est un agriculteur, est-ce qu'on peut le faire finalement facilement, et y compris sans perdre trop d'argent?
Non, on les aide pas assez. Là, moi, j'ai été filmé à un agriculteur qui s'appelle Paul François, qui a 240 hectares en Charente, qui est donc et cet agriculteur qui est tombé malade suite à avoir inhaler accidentellement un des produits avec lesquels il travaillait et qui a donc attaqué en justice Monsanto, etc. Aujourd'hui, il a converti l'ensemble de sa ferme en bio, qui fait donc 240 hectares. Il fait des céréales, mais il fait aussi des tournesols, des haricots. Ça lui a pris plusieurs années. Il l'a fait par étapes. Il a perdu des rendements au début. Maintenant, il a rattrapé. Et maintenant, finalement, il dit qu'il gagne plus d'argent qu'avant. Mais il a dû dépasser la barrière psychologique, la barrière financière, la barrière du temps. Mmh. Et ça, on a besoin de les aider, les agriculteurs, à le faire. Et notamment en réorientant les subventions pour que les subventions servent de tampon pour les quelques années où ils vont faire ce virage.
On va rester sur le sujet avec Edith. Bonsoir Edith.
Oui, bonsoir.
Allez-y Edith.
Donc moi je suis paysanne bio dans la Loire sur une petite ferme. Et je voulais préciser que souvent vous parlez des agriculteurs. Les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui pour défendre leur modèle de production. C'est pas les agriculteurs, c'est certains agriculteurs syndiqués dans un certain syndicat qui s'appelle la FNSEA et qui défend quand même l'agriculture industrielle et productiviste. Et tous les agriculteurs ne se reconnaissent absolument pas, mais absolument pas dans ce syndicat-là, et il ne faut pas dire les agriculteurs, certains agriculteurs. Moi, avec mon mari, on est en bio sur une petite ferme, on produit du lait qu'on transforme en yaourt, et on a des poules pondeuses. La première chose, c'est qu'on vend déjà nous-mêmes nos produits, et du coup, on produit que ce qu'on peut vendre. Donc, on décide nos prix de vente. Donc, depuis qu'on est en bio, depuis qu'on est en vente, comme ça, en circuit court, on s'en sort, on est heureux, c'est un travail gratifiant, on a nos clients en face tous les jours qui nous disent qu'on fait des super yaourts, voilà. Et c'est ça aussi l'agriculture, il n'y a pas que ces paysans-là qui manifestent pour défendre un modèle qui est complètement dépassé, il y a aussi une autre agriculture qui émerge, et il faudrait aussi qu'on l'entende un peu et qu'on mette en avant tout ça. Voilà.
Merci beaucoup, Edith. Il y a effectivement une autre agriculture, enfin, mais précisément, est-ce qu'on n'est pas là dans la phase où il y a deux agricultures qui sont pas côte à côte, mais face à face, en fait?
Si, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois besoin de personnes qui essayent de faire bouger les choses de façon institutionnelle, c'est ce dont on parlait avec les subventions, et il y a besoin de personnes qui montrent un autre visage de l'agriculture, qui brossent un autre tableau de l'avenir. Et par exemple, le film dont on parlait tout à l'heure,
pour lequel j'allais vous y amener, la transition est parfaite.
J'imagine bien, dont j'ai fait la voix off, c'est ça. C'est des gens qui ont fait ce film pour montrer qu'une autre agriculture est possible, et que, comme disait effectivement cette auditrice, ça les rend plus heureux, ça restocke du carbone dans les sols, ça fait revenir de la biodiversité, c'est rentable, etc.
Ce qui nous montre, alors d'abord ça dure 8 ans, hein, donc ce qui nous montre aussi c'est que c'est pas simple, qu'ils se sont plantés plusieurs fois, c'est là que le film est meilleur d'ailleurs, et ce qu'ils essayent de nous montrer en gros qu'il peut y avoir une harmonie dans toute cette biodiversité, et qu'au fond, avant d'éradiquer, je donne un exemple, les escargots qui sont en train de bouffer littéralement les fruits, une fois qu'on comprend que les canards vont manger les escargots, ben oui, donc on a eu besoin de tuer personne, d'éradiquer personne et de mettre de pesticides nulle part. Mais au fond, alors, elle est magnifique cette ferme au bout de 8 ans, mais est-ce que c'est un modèle qui est réellement étendable et peut nourrir la planète, en fait? Jusqu'à quel point on est là dans une espèce de bulle particulière quand on est chez John Chester?
Ben, là déjà, on est sur une ferme de 85 hectares,
c'est
donc
gros,
c'est plus anecdotique. Et est-ce que c'est un modèle qui peut nourrir la planète? A priori, oui. Les études qu'on a, qui sont les plus sérieuses sur ces sujets-là, c'est par exemple le rapport qui a été rendu par Olivier de Schutter, qui était rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, je crois que c'est en 2011. Donc devant l'ensemble des pays membres de l'ONU, il a fait un rapport sur l'agroécologie, où il a été dans plus de 58 pays, principalement des pays du Sud, donc qui justement ont une agriculture qui n'est pas encore totalement industrielle, et il a montré que ce type de pratique pouvait multiplier par deux les rendements en 10 ans. Et donc je disais, bah c'est super, c'est dans les pays du Sud, et effectivement c'est dans des endroits qui sont peu mécanisés, mais est-ce que c'est valable à l'échelle de la planète? Et donc lui, il a vraiment fait une espèce de overview, enfin de vue d'ensemble de l'agriculture sur la planète, et il me disait, mais en fait ce qui nous trompe, c'est que 70 à 75% de la nourriture qu'on consomme vient de petites fermes. En fait, les grandes fermes qu'on voit, les grandes fermes céréalières, les grandes exploitations avec les tracteurs, toute la mécanisation, etc., c'est beaucoup de l'agriculture qui va nourrir l'industrie ou qui va être utilisée, par exemple, pour des agrocarburants, on peut penser au colza. Mais finalement, c'est pas une agriculture qui est tellement nourricière. Autre chiffre qui est intéressant, qu'on connaît peu, aujourd'hui, on nourrit, et ça c'était le prédécesseur d'Olivier de Schutter qui disait, on produit suffisamment pour nourrir 12 milliards d'habitants de la planète. Ce qui fait qu'il y a encore 850 millions de personnes qui meurent de faim ou qui sont dans la malnutrition, c'est un problème de répartition. Notamment le fait que 30% de la nourriture qu'on produit va directement à la poubelle. Donc les quelques baisses de rendement qu'on aurait au début au Nord en faisant de l'agriculture biologique, voire plus, de la permaculture, etc., serait largement compensé si on arrêtait de faire du gâchis. Et au Sud, on pourrait multiplier par deux les rendements.
Là, dans l'exemple de John Chester, par exemple, qui est effectivement assez édifiant, ils font appel à un l'équivalent d'un Kiss Kiss Bang Bang pour pouvoir commencer à se financer.
C'est plus que ça, voilà, c'est qu'ils vont chercher un investisseur qui, à mon avis, a mis pas mal de sous.
Et alors, donc voilà, il y a un investisseur qui met beaucoup d'argent, il y a des gens qui viennent aider à la ferme, surtout quand les choses deviennent un peu compliquées. Quand on parle de l'échelle de nourrir la planète, ou en tout cas se nourrir, à quel moment ils se nourrissent en fait chez les Chester? À quel moment ça marche, y compris pour s'alimenter eux-mêmes, arriver à vivre eux-mêmes? Aujourd'hui, par exemple, est-ce que cette ferme est rentable, en tout cas pour eux, pour qu'ils puissent y vivre tout simplement, vivre de ce qu'ils font?
Ouais, aujourd'hui elle l'est vraiment, et ce qui est amusant dans le film, c'est que justement le type qui les aide a fait un peu le design de la ferme, c'est-à-dire qu'il leur explique qu'il faut qu'ils aient un maximum de diversité, donc qu'ils mettent à la fois des arbres, mais aussi des animaux, mais aussi des mares, etc.
Le Alan York du début, dont on ne sait pas très bien si c'est un fou furieux ou un gourou, mais à la fin c'est lui qui a raison.
Je pense que c'est un peu un fou furieux. Ouais. Et d'ailleurs, John dit qu'il est vachement inquiet, parce qu'au bout de deux ans, il dit en fait on a réussi à faire une usine à compost, mais on n'a toujours rien fait pousser. Et il leur dit au bout de sept ans, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que ce qu'il leur explique, c'est que le but, c'est de recréer un écosystème où tout va rentrer en équilibre. Et sauf qu'au bout de 4 ans, le fameux Alan York meurt et qui se retrouve comme des andouilles en disant mais alors qu'est-ce qu'on fait?
Bon.
Et donc on voit qu'en gros, et c'était à peu près la même chose au Bec et Loin, qui est cette ferme en permaculture qu'on a été filmé dans Demain, où ils nous disaient qu'ils étaient arrivés à une forme d'équilibre au bout de 5 ans, en gros. Je pense que sur ce type de ferme, c'est de cet ordre-là. Et donc ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a besoin ou d'avoir des investisseurs au départ, ou d'avoir des subventions publiques qui permettent cette réorientation. Parce que sinon, effectivement, pendant les 5 premières années, c'est dur pour ces agriculteurs.
Allez, retour au standard, retrouvez Michel. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Allez-y Michel.
Oui, bonsoir Michel David, là je suis... Pardon, il faut que je coupe une radio. Pardon.
Bah oui, j'espère que c'est la nôtre que vous écoutez.
Excusez-moi. Je suis agriculteur bio depuis 30 ans. Et je pose la question là à Cyril Dion, que j'apprécie par ailleurs, et j'apprécie aussi la conférence de citoyens, mais est-ce que les gens de la conférence de citoyens, le panel, va être bien informés que les accords de libre-échange déjà créés avec l'Organisation mondiale du commerce depuis nombreuses années, contre lequel on se bat d'ailleurs, l'affaire José Bové à Millau, c'était déjà contre ces accords, et que ces accords nous font délocaliser notre pollution agricole. C'est-à-dire qu'actuellement, il arrive 4,5 millions de tonnes de soja, souvent OGM, en France, dont 350 000 tonnes à côté de chez moi, là, à Sète et Port-la-Nouvelle, et que ça, c'est une délocalisation de la pollution, qui est donc du CO2, qui déforeste la forêt amazonienne, qui expulse les populations indigènes, pour faire du soja OGM et aussi des élevages de 10 000 vaches. Et donc ça n'est pas compté dans notre comptabilisation de notre CO2 franco-français, quoi. Voilà, donc et c'est vrai que les représentants du comité économique et social, c'est très bien. Nous avons un représentant, la Confédération paysanne. On aimerait bien aussi qu'il soit consulté, parce que pour former les gens, il faut qu'ils comprennent ce mécanisme aussi. Voilà, parmi ça. Et ça, c'est un des grands enjeux. Parce qu'on a beau avoir plein de petites fermes qui se battent, etc. Mmh. J'apprécie aussi ce que vous avez dit sur les aides, parce que il y a 11 milliards d'aides en France. Il y en a 7 milliards et demi qui vont à 25% des agriculteurs, qui sont les plus gros et les plus productivistes. Et c'est cela qui importe d'ailleurs le plus. Voilà. Aussi, donc, et que sachez que tous les petits maraîchers qu'il faudrait pour nourrir les cantines, les hôpitaux et tout ça, eh bien, eux, ils n'ont pas d'aide parce que c'est à l'hectare et ça paye pas de quoi remplir les papiers. C'est en gros 350 euros ou quelque chose comme ça parce que c'est à l'hectare. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous, Michel, pour votre coup de fil. Cyril Dion, par rapport à ce que...
Alors, Michel, rassurez-vous vraiment, parce que les personnes qui ont été tirées au sort sont déjà hyper affûtées elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont mis sur la table le sujet du CETA, des accords de libre-échange, dès le début, et dans leur question au Premier ministre qui est venu leur parler vendredi, et dans leur question à la ministre de l'écologie qui est venue leur parler dimanche matin. Ils ont un socle d'informations que vous pouvez aller trouver sur le site de la Convention citoyenne. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller regarder les vidéos des trois premiers jours, parce que l'idée c'est que cette convention soit un peu à ciel ouvert. Donc vous pouvez regarder aussi ce que les gens disent. Et dans ce socle d'informations, on leur explique tout ça. Et on leur explique notamment qu'une partie de nos émissions sont des émissions importées à travers les choses qu'on achète, qui sont faites ailleurs et qui occasionnent des émissions de gaz à effet de serre.
Tiens, puisque je me fais engueuler sur franceinter.fr, j'y vais. Mais comment osez-vous dire, je cite, « Rien n'est plus démocratique que le tirage au sort ». Non, c'est pas ça la démocratie, ça c'est la Française des Jeux. La démocratie, c'est le vote, c'est l'élection. Bref, vous êtes toujours dans le service après-vente des initiatives du gouvernement. Comme ça au moins, je l'ai dit.
Alors, juste un petit mot là-dessus quand même. Je vous encourage... Mon cher monsieur, à lire, ou chère madame, j'en sais rien, à lire un livre qui s'appelle « Contre les élections » de David Van Reybrouck, qui a un titre un peu provocateur, mais qui explique bien que l'élection est un mode de désignation, qui est plutôt un mode de désignation aristocratique, alors que le tirage au sort est vraiment un mode de désignation totalement démocratique, qui était déjà expérimenté à Athènes, c'était pas la Française des Jeux à Athènes, et que c'est très intéressant de comprendre que la démocratie, on l'a réduite aux élections. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de démocratie, on croit que c'est que les élections, mais il y a plein de modalités démocratiques et qui ne s'excluent pas les unes les autres. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il faut se débarrasser de l'élection, ça veut dire que on a besoin d'avoir, ok, des représentants élus, mais aussi certainement des mécanismes de personnes tirées au sort.
Célia Kigri, rapidement, avant de retourner au standard.
Pour en revenir aux agriculteurs qu'on entendait tout à l'heure, comment vous allez faire dans cette convention citoyenne, finalement, pour proposer des idées sans connaître quel budget pourrait être affecté à ces propositions? On parle d'aides qui pourraient être mieux redistribuées vers la permaculture ou le bio, l'agroécologie, etc. Mais on est dans un contexte européen avec Bruxelles. S'il faut beaucoup d'aides pour ces agriculteurs-là, comment vous allez faire émerger vos propositions sans savoir de quel budget vous disposez?
Là, en l'occurrence, le Premier ministre l'a dit au 150 le premier jour, on va leur proposer d'aller comprendre ce que coûtent leurs propositions et de faire des propositions sur la répartition du budget.
Non, mais des propositions réalistes.
Ah bah oui, mais il faut que ça soit des propositions réalistes puisqu'il faut qu'elles puissent être acceptées à l'Assemblée ou au référendum. Mais
qui va venir leur expliquer attention, ce que vous proposez, ça coûte tant. Qui va faire ça?
Là, en l'occurrence, ils vont avoir des comités d'experts, certains sur le juridique, certains sur l'économique, qui vont leur permettre de chiffrer en disant si là vous proposez quelque chose comme ça, on va être sur tel, en gros, tel volume du budget. Aujourd'hui, le budget, il est réparti de telle façon. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez une proposition pour qu'il y ait une partie du budget qui soit réaffectée à ce que vous proposez.
Fabien, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Fabien.
Merci. Merci pour vos émissions. Cyril, je suis admiratif de votre travail et de votre calme et de votre sérénité face à l'enjeu qui est le nôtre. Moi, je rentre à la maison, là, et cet été particulièrement, ça fait un moment que cette situation est anxiogène, moi, je trouve, très anxiogène, et ce qui m'angoisse, c'est que j'ai pas l'impression qu'on en prenne la mesure. Je n'ai pas un seul insecte collé sur mon pare-brise, et j'habite vraiment à la campagne. Alors, moi, 2030, ça me paraît super loin, et j'ai fait un stage Extinction Rébellion, parce que je veux pas passer par des actes violents, mais j'en peux plus de ne pas agir, et donc je rejoins ce mouvement. Parce qu'on n'a plus le temps pour moi. On n'a plus le temps. Alors la situation, elle est anxiogène. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Il y a sans doute des choses à faire, mais on n'en prend pas le mouvement en ce moment. Et c'est, moi, j'ai vraiment la, je me pose vraiment des questions. Et 2030 me paraît super loin. Et donc, c'est extraordinaire ce que vous faites, mais ça me paraît très loin. Mais... j'ai plus l'impression qu'on a le temps. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue.
Merci, Fabien. 2030, c'est trop loin, Cyril Dion.
C'est pas que c'est trop loin, c'est que je suis complètement d'accord avec le fait qu'on a très peu de temps. On sait que dans les 10 ans qui viennent, il y a un certain nombre de basculements qui risquent de s'opérer. Parce que une partie du réchauffement s'accélère, que là, dernièrement, des chercheurs français ont fait tourner des calculateurs pendant des jours et des jours pour essayer de mesurer au plus près la trajectoire du réchauffement. Ils disaient qu'en gros, en 2040, quoi qu'on fasse, même si on arrêtait d'émettre, on serait déjà à 2 degrés, et sans doute à plus 7 à la fin du siècle. Et que plus 7 à la fin du siècle, ça veut dire que c'est une planète qui est totalement invivable. Mais c'est-à-dire que si on n'a pas le temps, justement, ça nous ramène à « Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Alors, j'allais vous poser la question, faut-il être plus coercitif ? Allons-y, on parle beaucoup d'avions en ce moment, mais on nous laisse tous la possibilité de prendre l'avion ou de ne pas le prendre. Faut-il dire désormais, c'est un vol par an, par exemple, et c'est pas plus ? Est-ce qu'il faut faire des choses de ce genre-là ?
Oui, il faudrait faire des choses de ce genre-là. Le problème, c'est comment les faire. Donc, il y a une façon de les faire qui est par une espèce d'autocratie, c'est-à-dire c'est les responsables politiques qui disent du jour au lendemain c'est comme ci ou comme ça. Il y a fort peu de chances que ça arrive pour les deux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que ça leur permettrait pas de se faire réélire et parce qu'ils auraient sans doute une partie de la France dans la rue. Il y a une deuxième partie de le faire qui est pour moi dans un mix entre ce que fait par exemple Extinction Rebellion, c'est-à-dire une sorte de rapport de force dans la rue et dans l'opinion, ce que fait aussi Greta, c'est-à-dire faire en sorte que l'opinion de plus en plus se rende compte qu'il faut y arriver, et des moyens plus démocratiques, c'est-à-dire aller vers plus de démocratie, pour que ce soit les citoyens eux-mêmes, ces citoyens tirés au sort par exemple, qui arrivent à ces conclusions-là, qui les fassent, et qui donc les fassent ratifier au référendum. Si ce sont les Français eux-mêmes qui au référendum disent « oui, on se rend compte qu'il faut le faire, mais que ça doit se faire dans un esprit de justice sociale », c'est-à-dire que ce soit pas les plus pauvres qui trinquent.
Comme oui à une taxe carbone, je vous voilà. Pense volontairement.
Non, mais comme ça, c'est comme la taxe carbone a été faite. C'est-à-dire, en augmentant le prix de l'essence, sans taxer le kérosène, sans taxer les grandes entreprises, sans mettre en place un système de transport alternatif pour que les gens aient pas à prendre leur voiture. C'est tout ça. Mais si on se dit qu'on n'a pas le temps et qu'il faut prendre des grandes mesures, les grandes mesures, elles se prennent à l'échelle nationale ou supranationale, c'est-à-dire européenne. Et donc, le rapport de force doit s'engager par tous les moyens possibles, à la fois dans la rue, à la fois de façon institutionnelle, à la fois de façon juridique. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ces mouvements à s'articuler en une stratégie collective et pas à se regarder en chien de faïence.
Est-ce que ça veut dire que là, en ce moment, alors ils se font connaître Extinction Rebellion, effectivement, parce qu'on les connaissait déjà un peu, mais moins. Donc là, il y a plein d'actions qui sont simultanées dans le monde entier, mais donc une fois qu'on les voit, place du Châtelet par exemple à Paris, sur le pont Jacques-Cartier au Québec, ça c'est une chose. Mais est-ce que ça a du sens réellement, maintenant qu'ils sont là connus, de continuer dans ce genre d'action-là en fait ? Faut-il passer à quelque chose de plus concret, de plus directement en lien avec ce qu'ils défendent ?
En fait, il y a deux types d'actions pour moi, directes comme ça. Il y a des actions, eux ce qu'ils essaient de faire c'est des actions de blocage. C'est-à-dire d'essayer de bloquer la société industrielle, polluante, à la fois pour l'empêcher de fonctionner, comme par exemple ceux qui vont occuper les mines de charbon en Allemagne, ou qui peuvent à demain aller occuper des raffineries, etc. Un peu ce que les Gilets jaunes ont fait quand ils bloquaient pour que tout le monde se rende compte qu'il y a besoin d'agir, finalement. Et puis, il y a des actions qui sont des actions pour construire autre chose. C'est-à-dire, justement, tous ces gens qui inventent une nouvelle façon de faire de l'agriculture, une nouvelle façon de produire de l'énergie, de nouveaux moyens d'échange qui soient pas de l'économie prédatrice, financiarisée, etc.
J'en profite pour rappeler que le film dont vous faites la voix off et que vous portez s'appelle Tout est possible de John Chester. Et j'invite vraiment les gens à y aller parce que, encore une fois, c'est pas toujours simple pour ce Chester. Et parfois, d'ailleurs, on a aussi envie de lui dire tu vas dans la mauvaise direction. Donc c'est pas une histoire de bisounours là-dedans, mais c'est en tout cas une expérience qui vaut le coup d'être regardée. C'est très bien filmé. C'est un sacré bonhomme. Merci beaucoup, Cyril Dion. Merci, Cilia. Merci pour toutes vos questions.